France Culture.
Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'islam et des Mongols, de la Horde d'Or, des descendants musulmans de cette Horde, mot qu'il ne faut pas prendre selon l'acception actuelle. J'ai cru comprendre que ça veut dire simplement une tribu ou un groupe humain, alors que parfois on entend parler de la psychologie de la Horde, sous-entendu une foule furieuse, et ce qui n'est pas le cas. J'ai grand plaisir pour parler de ce sujet à recevoir d'abord ici, en studio même, Isabelle Mondreau. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde.
Bonjour.
Merci. Bonjour et merci d'être parmi nous, de nous donner de votre temps. Et avec la magie de la technologie, de Bishkek, au Kirghizistan, nous avons aussi la joie de recevoir Marie Favreau. Marie Favreau, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes professeure à l'université Paris-Nanterre, c'est Lupon, dit Université Paris-Ouest-Nanterre, d'histoire médiévale de l'islam, l'islam civilisation. Et vous êtes aussi directrice de l'Institut d'études, de l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, le fameux IFEAC. Merci à vous deux. Et nous nous sommes intéressés au sujet des descendants de la Horde d'Or pour dire que généralement on parle des musulmans européens sous l'angle de l'immigration, alors que l'immigration et l'islam ne sont pas tautologiques. Et en plus, on pense souvent aux Balkans, alors qu'en réalité, il y a, et particulièrement au Podlachie ou en Pologne, ou sur les bords de la Volga, des musulmans depuis des siècles. Vous y êtes intéressée, Isabelle Mondreau, à ce sujet. Comment étiez-vous amenée à avoir comme intérêt au fait de parler des musulmans européens qui sont un peu aux confins de la Pologne et de la Biélorussie?
En fait, je me suis rendu plusieurs fois en reportage en Pologne et j'ignorais totalement en fait cette présence des Tatars de Pologne, comme on dit. Et donc j'ai été amené à me rendre dans la région de la Podlachie qui se trouve au nord-est de la Pologne et de découvrir cette communauté qui est toute petite aujourd'hui, mais qui est très particulière et qui m'a un peu fascinée. Et donc voilà, j'ai voulu savoir un peu plus qui étaient ces Tatars, d'où ils venaient et quelles étaient leurs particularités. Parce qu'ils sont polonais depuis des siècles, hein, vous l'avez dit, mais ils ont encore leur culture et c'est fascinant.
Bien, alors puisque c'est fascinant, ça nous engage tout au long de l'émission à comprendre un peu leur histoire. Marie Favreau, ils sont descendants de Batou, ce petit-fils. Alors moi je dis Genghis Khan, et comment dites-vous?
En France, on parle de Genghis Khan.
C'est
voilà,
vrai.
On parle de Genghis Khan parfois aussi, mais c'est vrai que la prononciation, sinon mongol et turc, c'est Genghis Khan. Et donc oui, ces fameux Tatars sont liés à cette histoire de l'Empire mongol du XIIIe siècle au XIVe siècle. Ça va être vraiment les deux grands siècles mongols. Cela dit, eux-mêmes se réclament aussi d'une période un peu plus ancienne, qui est celle des Bulgares de la Volga, qui est un petit peu plus ancienne. Donc l'islamisation
Bulgares
en fait,
sans le
Tatars. Sans le E,
oui.
Alors on a l'habitude, voilà, nous en tout cas en histoire, de l'écrire sans le E pour bien les distinguer de la Bulgarie aussi auprès du grand public et de nos étudiants. Et ces fameux Bulgares, Bolgares, hein, comme ils le disent, prédatent les Mongols, hein, sont vraiment présents et bien attestés dans les sources à partir notamment du 11e, 12e siècle. On sait déjà qu'il y a des musulmans bolgares dans ces régions de la Volga. Et moi aussi, c'est ce qui m'a fascinée, c'est d'entendre parler pour la première fois tout d'un coup de musulmans dans le nord du monde. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez.
Ben, raison de plus pour que nous en parlions ensemble un peu plus. Entre Isabelle Mondreau et vous-même, Marie Favreau, il y aura ce va-et-vient. Isabelle Mondreau nous évoquera les aspects relatifs aux questions contemporaines et de l'actualité, actualité européenne, actualité brûlante parfois. Et avec vous, il y aura cette tapisserie des siècles sur une fresque historique, particulièrement pour le XIIIe et XIVe siècle. Si vous êtes d'accord sur ce partage, nous pourrons poursuivre. Isabelle Mondreau, vous avez dit qu'en réalité, c'est une petite communauté, un groupe humain, en gros de 5 400, 5 500 individus.
Le dernier recensement qui avait été fait en Pologne date de 2021. Ils étaient à peu près estimés à 5 000. Mais en fait, la communauté elle-même pense qu'ils sont un peu moins, entre 3 et 4 000. Donc, rapporté aux 36 millions ou 37 millions de Polonais, évidemment, c'est très très peu. Mais ils sont très attachés à leur culture. Ils essaient de la retrouver, d'ailleurs, parce que beaucoup a été perdu. Mais ils ont gardé la religion et ils ont gardé la cuisine. C'est sur cette base-là que leur culture s'est maintenue. Et ensuite, ils essayent de retrouver leur danse, leur langue qu'ils ont perdue.
Leur danse traditionnelle.
Leur danse traditionnelle et qu'ils ont perdu, leur langue aussi. Et donc, il y a une quête de retrouver un peu l'identité première qu'ils avaient quand ils sont venus des steppes, parce qu'ils sont venus de très loin quand même. Mais ils sont foncièrement polonais. Ils sont fiers d'être polonais avec cette origine. Et c'est très intéressant.
Et parmi les figures de proue, il y a cette Halina Sadiewicz, qui est une figure, en tout cas, de cette communauté, et qui, par une chorégraphie venue de Crimée, ou peut-être de Tchétchénie, ou enfin de cette partie-là, reprend toute la chorégraphie de ces danses traditionnelles.
Alors, cette dame est âgée, elle a 80 ans, et c'était une enseignante, et qui a justement eu l'envie et la volonté de retrouver cette culture. Et donc, les danses ayant été perdues, ainsi que les costumes, eh bien, ils ont fait venir des Tatars de Crimée, de Bachkirie aussi, qui est une région russe, Tatar, et du Tatarstan aussi, donc, et de Tchétchénie aussi, parce que c'est très très proche, en fait. C'est très proche. Donc, ils ont pris ces costumes de ces différentes communautés, et maintenant, d'ailleurs, ils font souvent des spectacles. Ils essayent d'initier les enfants aussi à retrouver ces danses, ces costumes, à les porter et qui sont très très beaux. Et il y a le bounzouk, par exemple, qui est une particularité des Tatars, qui est en fait une hampe très haute avec surmontée d'un petit parasol avec des grelots et deux touffes de queue de cheval que les cavaliers tatars portaient et qui maintenant, cette dame a décidé de baptiser la danse le bounzouk en référence.
Bien. Marie Favreau, cette affaire-là commence en gros avec Berke Khan ou avec Hulagu, son cousin. Et notamment le sac de Bagdad, là, cette dévastation, le cataclysme qui a frappé la ville le 10 février 1258, avec une histoire qui remonte un peu à quelques années plus tôt.
Oui, alors absolument. En fait, ce qui est intéressant dans le cadre mongol, donc on est dans les invasions mongoles qui ont commencé au début du XIIIe siècle et qui sont menées par Genghis Khan d'abord, mais aussi par ses fils et ses petits-fils. Donc là, on est plus dans la génération des petits-fils de Genghis Khan. Donc on est autour de ce milieu du XIIIe siècle. Et les Mongols sont déjà au contact du monde musulman. Il y a des musulmans, sans doute, parmi les Mongols. L'un des petits-fils de Genghis Khan, donc Berke, on dit converti à l'islam, mais enfin est né musulman. Sa mère probablement est une princesse d'une région qu'on appelle le Khorezm. Enfin, disons en tout cas, elle est une princesse d'Asie centrale musulmane. Elle a fait élever son fils dans la foi musulmane, et donc lui est un souverain mongol qui soutient les communautés musulmanes, mais dans un esprit mongol qui est un esprit toujours très ouvert sur la diversité religieuse, qui est une manière de mener leur politique impériale, où vous savez cet espace qui va de la Corée jusqu'à l'Irak, donc en fait on voit plusieurs communautés religieuses se côtoyer. Bien sûr, donc les musulmans dont on va parler aujourd'hui, mais ils côtoient également les chrétiens, ils côtoient des communautés juives, bouddhistes, taoïstes. Donc il y a un mélange communautaire qui pose beaucoup moins de questions finalement hein, qu'aujourd'hui. C'est à l'époque on parle plusieurs langues, on a plusieurs religions, bon c'est normal. Et c'est ce Berquet a quand même va jouer un rôle vraiment particulier parce que lui, il va être en charge des régions dominées par les Mongols qui se trouvent aujourd'hui dans la vallée de la Volga et dans la Russie actuelle et aussi dans l'Ukraine actuelle, où se trouvent donc déjà des communautés musulmanes. Lui étant musulman, va soutenir en fait les échanges, alors pas seulement diplomatiques, commerciaux, mais aussi les échanges de l'ordre de la scolastique, de l'ordre de la réflexion intellectuelle ou de la réflexion religieuse sur l'islam, tout en laissant ouvert, évidemment, la porte aux autres religions. C'est la grande époque du sac de Bagdad, 1258, mais qui, en même temps, correspond plutôt à un moment donné où, finalement, il y a un règlement de compte entre les Mongols au pouvoir et les Abbassides. Il y a eu un certain nombre de contrats qui étaient passés entre eux déjà auparavant, et il y a un désaccord très profond qui se pose entre le calife abbassides et les Mongols. Et les Mongols donc décident, après moult hésitations, à vrai dire, d'exécuter le calife abbasside, d'en terminer avec la dynastie abbasside et cependant de maintenir l'importance de l'islam dans leur empire. Et c'est vraiment Berquet qui va être, donc ce souverain mongol, petit-fils de Genghis Khan, qui va être la tête de proue hein, de ce mouvement musulman dans l'empire mongol. Donc on est là, voilà, dans les années 1258-1260, autour de cette période.
Oui, nous pourrions, si vous voulez bien, Marie Favreau, peut-être au moins dire quelques mots sur cette période et comment, avec Hulagu, qui pour certains est le fondateur de la dynastie des Ilkhanides, mais comment les choses ont-elles commencé? Vous avez dit qu'il a voulu, lui, et puis même peut-être sur ordre de son frère, le grand Khan, en finir avec le califat abbasside. Comment les tractations ont-elles commencé? Il y a eu d'abord l'idée de demander au calife al-Mustasim de se rendre. Celui-ci a dit qu'il n'en était pas question parce que du Maghreb, quasiment en transoxiane, on allait s'insurger contre cet état de fait. Et puis, après la polyorcétique qui est l'art du siège, imposé par Hulagu, et la castramétation qui est l'art aussi de poser des camps, finalement Bagdad va être investi ce fameux 10 février 1258.
Oui, alors, en effet, Hulagu a décidé de la prise finale de Bagdad autour du désaccord avec le calife. Simplement, il faut quand même se souvenir des rapports de force au sein du monde musulman à l'époque. Donc, on a un calife abbasside qui est faible par rapport à ce qu'il a été par le passé, qui a été très affaibli déjà à la période seldjoukide, et puis ensuite à la période qu'on appelle la période de Khwarezm Shah, c'est-à-dire le grand pouvoir musulman à côté des Abbassides, qui couvre une grande partie de l'Asie centrale et de l'Iran à l'époque. C'est le pouvoir des sultans du Khwarezm, qui en fait est un pouvoir militairement beaucoup plus puissant que le califat abbasside. Le califat abbasside à l'époque est en fait un ennemi relativement facile à faire tomber pour les Mongols. Mais les Mongols ne considèrent pas le califat abbasside comme un ennemi au départ. Ils ont des accords commerciaux avec le grand-père en fait du calife en place, et ces accords sont rompus. Et donc les Mongols prennent en partie la décision donc d'englober, alors non pas de détruire et de d'effacer de la surface de la terre, loin de là, Bagdad et l'islam, mais par contre d'englober cela dans leur empire. Et donc ils considèrent qu'un calife par rapport à un khan, c'est-à-dire un empereur mongol, ne peut pas avoir lieu d'être politiquement. Donc ils éliminent le calife à ce moment-là. Mais c'est vrai que cette prise de Bagdad, quand on regarde les sources musulmanes de l'époque, du XIIIe siècle, a été vécue évidemment
notamment
comme un choc.
Rachid Eddine. Voilà. Je parle
alors,
du chroniqueur.
Je dirais surtout Ibn al-Nasir.
Ah, très bien.
Après Ibn al-Asir, il y a eu cette idée que les Mongols pouvaient être une menace pour l'islam. Mais Rachid ad-Din, lui, fait partie de ces chroniqueurs qui ont, un peu plus tard, plutôt présenté de manière positive, en fait, l'intégration de ce qui avait été le califat abbasside dans l'empire mongol. Donc en fait, l'empire mongol, dans son rapport au monde musulman, qui est un monde pluriel, comme vous l'avez expliqué, est un rapport complexe avec lequel il y a des alliances, un monde avec lequel il y a aussi des différends et des guerres. C'est ce qui s'est passé autour de la prise de Bagdad en 1258. Mais aujourd'hui, avec d'autres collègues, on travaille beaucoup sur les conséquences de cette prise de Bagdad. Et même si le sac est indéniable, une partie de la ville ruinée, 2, 3, 4, 5, 6 ans après, déjà, on voit un redressement local qui est porté par les Mongols, qui ne veulent certainement pas éliminer Bagdad, voilà, enfin raser la ville, comme on a pu le dire, ou bien au contraire, pour lesquels Bagdad va compter énormément. Bagdad, c'est une plaque tournante commerciale extraordinaire, c'est un lieu important pour les Mongols. Et donc, aujourd'hui, dans la recherche, on montre comment la vision d'un Bagdad totalement détruite, totalement effacée de la surface du monde est complètement transformée dans certaines sources. Et au contraire, un certain nombre de musulmans se sont assez rapidement félicités finalement de l'organisation mongole, qui était une organisation très respectueuse hein, des musulmans, parce que voilà, ils avaient des accords écrits d'ailleurs aussi, des accords commerciaux, des accords diplomatiques. Et donc Bagdad, 50 ans après la prise de 1258, est une des villes les plus florissantes de la région. Et moi, mon travail a été d'expliquer pourquoi, puisque comme quand j'étais étudiante, on m'avait dit les Mongols ont rasé Bagdad, et moi, dans mes sources, je me disais oui, mais alors pourquoi en 1300, c'est une des villes les plus florissantes de la zone. Il y a une explication quelque part. Et donc voilà, aujourd'hui, on peut bien montrer comment les Mongols ont soutenu la reconstruction de Bagdad, comme ils ont soutenu la reconstruction d'autres villes, hein, d'ailleurs, c'est pas la seule. Mais celle-ci a été particulièrement choisie pour être une ville voilà, florissante, ouverte, sur notamment les réseaux commerciaux.
Bien, nous verrons avec vous dans la suite de l'émission qu'en est-il de la science historique et l'état actuel de la recherche. Avec vous, Isabelle Mondreau, pour revenir à cette actualité, à ces Tatars musulmans de Potlachie, il y aurait une crainte avec eux, c'est que leur tradition, leurs coutumes, leur islam débonnaire et apaisé, un islam habitué à la mixité, dites-vous, puisse être dilué, notamment avec l'arrivée de migrants venus notamment du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, alors que la vie pour eux était tout autre, et cela depuis des siècles.
Oui, ils sont aujourd'hui heurtés, c'est un mot un peu fort, mais ils sont heurtés par l'arrivée de migrants qui viennent de la partie arabe du monde et donc qui ont un islam, des pratiques en tout cas qui sont un peu différentes des leurs. Ces Tatars-là du Nord, on va les appeler les Tatars du Nord de l'Europe en fait, pratiquent un islam ouvert, très respectueux d'ailleurs des autres religions et par exemple les femmes ne portent pas le hijab, les restaurants tatars admettent l'alcool pour les convives qui viennent dîner dans ces restaurants, ils font des petits textes, des rouleaux qu'ils mettent dans les tombes, enfin voilà, ils ont des pratiques qui sont différentes du monde arabe. Et quand ces migrants arrivent, eh bien, ça provoque quelques tensions parce que on leur dit, les autres leur disent, bah vous êtes pas des vrais musulmans, alors ce qui les heurte évidemment beaucoup. Et ça se joue aussi dans les mosquées parce que leurs mosquées sont particulières, ce sont des petites mosquées d'ailleurs, hein, parce que vu qu'ils sont pas très nombreux, elles sont petites. Il y a bien sûr le minbar, il y a tout ça. Mais par exemple, il y a des tableaux des fois dans ces petites mosquées. Il y a des choses comme ça. Et donc les mosquées, le moufti en tout cas qui est à la tête depuis 2004 en fait de la communauté musulmane des musulmans de Pologne et qui est lui-même d'origine tatare est très contesté aujourd'hui parce qu'il a été formé en Arabie Saoudite et parce qu'il a fait venir des imams qui sont du Moyen-Orient.
Imprégnés de la doctrine wahhabite.
Voilà. Les Tatars sont sunnites, hein, bien sûr. Donc, ça ne correspond pas. Alors, ils boudent des fois les mosquées qui sont dirigées, par exemple, à Bialystok, qui est un peu le chef-lieu de la Podlachie. Il y a une jolie petite mosquée qui a été entièrement refaite par les Turcs et qui est animée par un imam très sympathique, tadjik, mais qui a été formé justement à Istanbul. Et ça leur plaît pas beaucoup. Ils sont très très jaloux de leurs racines, leur identité, pour lesquelles ils mènent un combat pour les préserver, bien sûr. Donc c'est ça crée quelques tensions. Et en plus, pour finir, les migrants venant du Moyen-Orient deviennent plus nombreux qu'eux. Et donc ça c'est aussi un problème.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous parlons des Mongols et de l'islam d'une manière générale, des descendants des Mongols et des Tatars musulmans, particulièrement en Podlachie, mais pas uniquement. Et en ce qui concerne l'histoire, c'est avec Marie Favreau, qui elle-même est historienne et professeure d'histoire médiévale à Paris-Nanterre. Elle est aussi directrice de l'Institut français d'études sur l'Asie centrale. Et avec Isabelle Mondreau, grand reporter au journal Le Monde. Pour la partie historique, chère Marie Favreau, encore un mot, puisque moi j'ai gardé les connaissances que vous aviez eues comme vous étiez vous-même étudiante. On dit que Hulagu a ordonné le supplice du calife Al-Mostassim en l'enroulant dans un tapis pour que son sang ne... Il n'y aurait pas cette effusion de sang royal parce que ça porte malheur, mais il a été roué de coups jusqu'à la mort et aussi cette dévastation a été réelle. Et pourtant l'homme, je parle de Hulagu, est un homme lettré qui a une considération pour la connaissance, il est cultivé, versé en philosophie, et la preuve c'est qu'il a bien considéré quelqu'un, un savant comme Al-Tusi, et il lui a créé ou fondé ou édifié un observatoire à Malara.
Alors absolument, donc ce qui peut paraître paradoxal s'explique quand on retourne sur cette période en regardant nos sources et qu'on comprend la mentalité mongole. Donc d'une part, ce dont je parle souvent avec mes étudiants, c'est la question d'exécution. L'exécution, c'est l'horreur pour nous tous. Quand on réfléchit à une exécution, c'est quelque chose qui nous fait froid dans le dos, évidemment. Il faut penser qu'à la période médiévale, l'exécution, notamment l'exécution des élites, fait partie des rituels liés aux guerres. Dans le cadre mongol, les exécutions ne prennent pas les mêmes formes que dans d'autres cadres, dans le cadre occidental, où elles sont courantes, dans le cadre musulman, où elles sont courantes également. Et dans le cadre mongol, il y a plusieurs, disons, questions qui se posent quand il s'agit d'exécuter un personnage important. Les Mongols avaient beaucoup de respect et surtout aussi une forme de reconnaissance du charisme du calife. Il ne niait absolument pas son possible pouvoir religieux et, comme il disait, cosmique ou cosmogonique. Et donc, leur idée, c'était qu'il fallait surtout pas laisser son sang se répandre sur la Terre, parce que ça pouvait avoir des conséquences dramatiques pour l'histoire du monde. Et ce qui peut paraître paradoxal au premier abord, c'est qu'on parle de conquérants qui sont en guerre, mais les Mongols construisent un empire pour lequel ils imaginent un futur. Et donc, ils ne sont pas du tout dans une idée d'une politique de destruction totale. Ce qu'ils veulent, c'est aussi apaiser ceux qu'ils considèrent comme leurs sujets ou leurs futurs sujets, dont notamment les anciens sujets abbassides ou les sujets musulmans en général en Asie centrale et dans les régions qu'on appelle la Russie et l'Ukraine ou la Biélorussie aujourd'hui. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est faire une exécution qui ne menace pas le futur de l'humanité. Et donc, l'exécution qui peut paraître particulièrement barbare aujourd'hui, d'enrouler quelqu'un dans un tapis, de le battre à mort ou de faire, alors, dans d'autres versions, les chevaux passent dessus, etc., en fait, renvoie à cette idée de ne pas faire couler le sang du calife sur la terre, et renvoie à une autre idée très importante pour les Mongols, c'est que dans leur esprit politique, il y a une dynastie qui doit s'imposer au monde, c'est la dynastie de Genghis Khan et de ses fils, donc, et de ses petits-fils, donc Oulégou, Berke, dont on a parlé. Or, la dynastie, elle est représentée de manière symbolique par les os du corps. Donc, en fait, casser les os du calife, c'est-à-dire briser ses membres, ça veut dire qu'on ne souhaite pas que la dynastie abbasside continue. L'idée, c'est symboliquement, on ne reconnaîtra pas dans l'Empire mongol d'autorité politique à des descendants abbassides. C'est ça que ça veut dire dans le cas de cette exécution qui, évidemment, peut aujourd'hui nous paraître vraiment épouvantable. Et qui, à l'époque, n'a pas été comprise parce que ce n'était pas des pratiques du tout francs. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les exécutions dans le monde franc où on pouvait couper la tête, etc. Voilà, couper la tête, c'est bien, c'est normal. Mais briser les membres en enroulant quelqu'un dans un tapis, c'est barbare. Donc, vous voyez, il y a ce rapport voilà, un peu particulier au monde symbolique, d'un rapport entre présent, passé et futur, qui est propre à cette période et à ces nomades mongols. Ensuite, c'est vrai que pour la prise de Bagdad, il est indéniable qu'il y a eu des destructions fortes dans Bagdad autour de 1258. Et les Mongols, d'ailleurs, se sont répartis les quartiers. Il y a eu des exactions qui sont absolument indéniables. Cela dit, il y a une durée qui a été posée par les officiels de l'armée mongole. Ils ont dit, à un moment donné, ça suffit. On ne touche plus à cette ville. Maintenant, cette ville fait partie de l'Empire. Les habitants de Bagdad sont nos sujets. Donc, on va négocier avec eux un impôt qu'ils vont payer, mais ils sont aussi nos protégés. Et donc, en fait, c'est vrai que les historiens aujourd'hui réécrivent de manière intéressante la réalité de la reconstruction de Bagdad qui s'est produite, en fait, relativement rapidement après le sac de 1258. J'insiste aussi beaucoup, moi, dans mon travail, sur le rôle que les Mongols ont joué dans le soutien de ces différentes formes d'islam dont, bah, finalement, les Tatars actuels se font l'écho, des formes d'islam assez ouvertes, avec des possibilités de rituels variés. Et enfin, j'ai trouvé très intéressant la mention des tableaux dans les petites mosquées. Les Mongols étaient très fans de l'iconographie, comme les Seldjoukis d'avant, comme les Turcs, en fait, hein, avant eux. Et pour eux, des manuscrits illustrés qui raconte l'histoire des différentes dynasties du monde musulman, le travail qu'a fait Rachid Ad-Din, dont vous avez parlé, ce grand chroniqueur d'une histoire universelle à la fin du XIIIe siècle, hein, qui travaillait, qui était persan, mais qui travaillait pour les
dans
Mongols.
Dans son compendium, le compendium des chroniques ou l'histoire universelle.
Absolument, le Jami'a Tawarir. Oui. Voilà, le Jami'a Tawarir est une histoire universelle qui parle des musulmans, mais des d'autres dynasties aussi, qui rattache un peu tous ces mondes politiques complexes à une histoire globale et qui était aussi assortie de miniatures dont on a encore aujourd'hui des exemplaires éparpillés dans différentes bibliothèques. La plupart se trouvent en Allemagne, en Turquie, en France et en Angleterre. Et on voit à quel point les Mongols adorait à la cour qu'il y ait des représentations iconographiques, physiques, des personnages de l'histoire du monde musulman, de l'histoire du monde aussi persan, de l'histoire du monde en général. Et cet intérêt pour les images, qu'on n'associe pas toujours à l'islam aujourd'hui, était très présent déjà à cette époque mongole.
Alors, à l'évocation des Tatars, je reviendrai avec Isabelle Mondreau à des choses actuelles. Au-delà de l'anecdote, le roi Charles, alors prince, il y a déjà une quinzaine d'années, est allé rendre visite à un petit village de Tatars musulmans, et c'était à la fois surprenant, mais fort d'une symbolique pour les locaux.
Oui, l'actuel roi d'Angleterre, en fait, s'est rendu, alors qu'il était encore prince de Galles, dans cette région, il reste deux villages, en fait, typiques des Tatars, l'un à Boïnki et l'autre à Krouchinianié. Et donc, il s'est rendu à Krouchinianié, qui est vraiment... ça a été une zone fermée pendant le Covid, parce que c'est la proximité, en plus, avec la frontière biélorusse pendant le Covid. Et ensuite, parce qu'il y a eu le problème des migrants qui étaient instrumentalisés par Moscou et Minsk. Mais donc, il s'est rendu dans cette région qui était alors... encore moins développé qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que il y avait pas des les routes n'étaient pas encore bitumées, elles le sont aujourd'hui, et donc il va visiter l'une des deux mosquées vraiment qui sont traditionnelles, qui sont typiques et qui sont à côté de Mizar, c'est-à-dire des cimetières en fait musulmans où l'on peut voir des tombes qui la plus ancienne date de 1699 et on peut voir effectivement ce mélange parce que ce sont des tombes parfois en marbre noir comme on en voit dans le reste de la Pologne, mais avec le croissant musulmans et avec des prénoms souvent qui sont musulmans. Et quand le roi Charles arrive, c'est un peu la surprise, c'est-à-dire que personne n'est allé voir ces villages typiques tatars. Et donc ça va impulser un petit peu justement, redonner, impulser un peu du tourisme pour ces régions et pour la découverte des tatars. Et évidemment, quand il y va, c'est parce que l'ambassadeur britannique d'abord cherche à sortir un peu des sentiers battus. Et puis parce que c'est une région très agricole et c'est intéressé les Britanniques.
Vous dites dans votre reportage que la route n'était même pas goudronnée, et il neigeait beaucoup, ce qui a valu au prince de Galles d'avoir quelques difficultés à y accéder et puis il n'est pas resté longtemps.
Non, il n'est pas resté longtemps, c'était juste une petite visite comme ça. Mais le fait même qu'il soit rentré dans la petite mosquée de Krouchinianié. Il est allé aussi voir un restaurant, en fait, qui est devenu maintenant un centre un peu culturel et un restaurant qui s'appelle La Yourte. C'était vraiment un événement très, très important pour les Tatars qui avaient l'impression d'être, enfin, de dépérir. Et ça leur a vraiment redonné l'envie de développer le tourisme. Et c'est pour eux, c'était une visite royale, c'est le cas de le dire.
J'ai parlé de la mosquée de Boïnki parce que c'est une mosquée en bois, c'est sa particularité.
Celle de Krouchinianié aussi est en bois. Les deux sont en bois.
Et elle date du 19e siècle, un peu plus tôt.
Oui, elle date de 1800 et quelques, excusez-moi, j'ai plus la date exacte. Mais elles sont toutes les deux à peu près de la même période et elles sont... Elles sont intéressantes parce qu'elles sont en bois, donc c'est ce qui est pas traditionnel évidemment. Elles sont aussi chaleureuses parce que le bois, elles ont une petite partie pour les femmes, mais qui n'est absolument pas fermée, en fait, qui est très communicante avec la salle de prière. Et donc, et elles ont évidemment le croissant, mais elles ont celle de Krouchinianié par exemple à deux petites tours. Un peu comme en fait un peu comme une église
orthodoxe avec son bulbe.
Son bulbe, voilà, mais elles se distinguent quand même parce qu'elles ont le croissant et elles ont le minbar, enfin elles ont tout ce qu'il faut.
Marie Favreau, peut-être encore un mot sur la rivalité puis les antagonismes entre Berke et Hulagu. Dit-on, je le dis sous votre contrôle, que Berke, on voulait à Hulagu d'avoir exécuté le calife de Bagdad, le tout dernier. Mais peut-être que derrière cela, il y a une rivalité de succession avec le Kurultai qui devait élire ou désigner en tout cas le successeur du grand Khan. Y a-t-il des choses de cet ordre ou c'est l'envie de vouloir venger l'exécution du calife qui pousse Berke à être dans des antagonismes parfois véhéments contre Hulagu?
Alors, c'est une question très, très fine concernant ces rapports politiques complexes dans la famille mongole au pouvoir. Oui, il y a un antagonisme fort entre Hulagu et Berke. Hulagu, en gros, se trouve à la tête des armées, les frères du grand Khan. C'est lui qui arrive donc à la tête de toutes ces armées mongoles jusqu'à Bagdad. Et il cherche à se forger partie d'empire, on va dire, qu'on appellera par la suite les îles Khanides, l'île Khana ou l'île Kana. Et Berke, par contre, lui, est plus au nord. C'est la vallée de la Volga. C'est les régions dont on parle là, les régions tatares. Mais Berke a une ancienneté sur les goûts. Et dans le monde mongol, l'ancienneté, ça compte énormément. Donc Berke dit, il n'est pas question que Oulégou qui a fait exécuter le calife. Ce sur quoi on ne sait pas très bien, c'est-à-dire on ne sait pas très bien à quel point Oulégou est soutenu ou pas par Berke dans le cadre de cette exécution. Berke est resté relativement en retrait, mais ne s'est pas opposé clairement à l'exécution du calife. Par contre, ce que Berke dit, c'est « moi, je suis musulman, je suis un khan musulman ». Il met le mot « sultan » en avant, « sultan », il se dit « sultan ». Il dit donc « si il n'y a plus de dynastie abbasside, il n'y a plus de calife », il n'y a plus à l'époque d'Ayyoubide non plus. Dans cette région du monde, le souverain musulman numéro un, c'est moi, Berke. Et Oulégou, lui, ne se réclame pas l'islam du tout. Donc, il n'est pas en position de faire face à Berke par rapport à ça. Donc, effectivement, il y a à ce moment-là une opposition sur la question du leadership, et notamment dans le cadre du monde musulman, j'ai envie de dire vraiment du califat ancestral, puisque bon, on sait qu'il y a eu plusieurs califats dans le monde musulman à cette époque, mais tout de même, le califat abbasside, s'il s'arrête, qui va prendre la succession? Et c'est sûr que Berke essaye de se positionner. Oui. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est du jamais vu sur plusieurs générations dans le cadre du monde musulman. Et tout à l'heure, vous avez mentionné, je vous en remercie, Nasir Adine Toussi aussi et ses grands scientifiques qui ont joué un rôle un petit peu compliqué. Donc, ils sont musulmans. Ce sont des Ismaïlis, un Nizari Ismaïli, comme on dit dans les sources. Ils sont pas forcément pro-sunnites. Mais pour eux, l'œuvre d'Oulégou n'est pas inintéressante parce qu'ils s'opposent déjà depuis un certain temps aux Abbasides et aux califes Abbasides. Et c'est pour ça que dans ce que construit Oulégou, il y a quand même une idée de soutenir une partie du monde musulman qui n'est pas forcément sunnite et qui n'est certainement pas pro-abbasside et qui est donc tournée autour de l'œuvre notamment de Toussi, qui est une œuvre extraordinaire hein, sur le plan scientifique, astronomique, astrologique, médical, mathématicienne évidemment. C'était aussi quelqu'un qui avait développé des concepts. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir un rapport aux sciences extrêmement, où on les sépare toutes les unes des autres, très disciplinaires, entre guillemets. À cette époque, pas du tout. Toutes ces sciences se parlent. Et Nasir Adine Toussi est un des plus grands savants du monde.
Et pour ce qui concerne Nasir Adine Toussi, c'est que Nicolae Copernic, dans son fameux livre publié en 1543, date de la mort de Nicolae Copernic, le De Revolutionibus Orbium Celestium, de la révolution des orbes célestes, il parle du couple d'Al-Toussi qui permet de passer d'un mouvement circulaire à un mouvement linéaire. Et c'est quelque chose qui a donné un élan fantastique et formidable à la science et notamment à l'astronomie.
Mais alors, absolument. Et en fait, du côté occidental, on note un peu même avant tout cela, du côté des franciscains, des dominicains qui s'intéressent beaucoup à la science, hein, une lecture de ce que peut apporter notamment des savants comme Nasir Adine Toussi, portée par les souverains mongols. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'œuvre philosophique de Roger Bacon, qui a finalement, au XIIIe siècle, nous dit en fait, ce que les Mongols ont apporté, c'est à la fois un soutien à des savants extraordinaires, comme Nasir Adine Toussi et d'autres, et en même temps, un vrai financement aussi, un financement impérial derrière, et sur plusieurs générations. Donc, les visions du monde au XIIIe siècle va totalement basculer parce qu'il y a des bouleversements et des catastrophes politiques. Enfin, je veux dire, le bouleversement de la fin de Bagdad, la fin des Abbasides, c'est quand même quelque chose qui bouleverse les gens à plein de niveaux de la société. Et en même temps, une forme de reconstruction de la vision de ce qu'est le monde et le monde musulman et de ce qu'il pourrait être dans l'avenir. Et ça, c'est porté par des souverains comme Oulégou, malgré tout. C'est pour ça qu'il a ce côté paradoxal. À la fois, il paraît être une figure destructrice pour l'islam, et en même temps, il va porter des savants comme Nasir Adine Toussi, faire construire l'observatoire, mais aussi soutenir...
Dès 1259, c'est-à-dire un an après...
Voilà, exactement. Et c'est les Ilkhanides qui vont ensuite porter l'œuvre de donc Rachid ad-Din qu'on a mentionné, un des premiers chroniqueurs universels du monde. Et parallèlement, Berke, lui qui est plus au nord, qui lui aussi montre que l'islam n'est pas seulement une religion du Sud, entre guillemets, c'est aussi une religion du Nord, avec des questions pour les théologiens qui sont très importantes à l'époque. Comment vous faites pour les horaires de la prière quand il y a presque pas de jour, parce que il fait nuit très très tôt, puisqu'on est près du Nord, en fait, etc. Donc, 1000 questions qui vont se poser autour des rituels et de l'islam, parce que maintenant, il y a de plus en plus de musulmans dans le Nord du monde, et qu'ils se font connaître, et qu'ils ont aussi un pouvoir politique.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec Marie Favreau et Isabelle Montreau, nous parlons des Mongols, de l'islam, des Tatars, leurs continuateurs ou leurs descendants et de cet islam du Nord. Marie Favreau est historienne, professeure d'histoire de l'islam médiéval à Paris, à l'Université Paris-Nanterre. Elle est directrice de l'Institut français d'études sur l'Asie centrale et qui nous parle de Bishkek, du Kirghizistan. Et Isabelle Montreau est grand reporter au journal Le Monde. Pour vous, Isabelle Montreau, d'abord, vous mentionnez qu'on connaît peu ou les Tatars. Et l'une des figures connues dans le cinéma, c'est l'acteur Charles Bronson, mais il n'a jamais mis en avant cette ascendance tatare. Et qu'il y a ces fameux Tatars un peu détachés de leurs propres cousins russes ou même de Crimée, et qu'à un moment donné, lorsque l'Empire mongol commence un peu à se disloquer, eux, ils avaient pris... plutôt le parti de Jean III Sobieski, quand il y avait quelques heurts, voire des conflits avec l'Empire ottoman, et ce dernier leur avait donné des terres un peu comme apanage.
Oui, en fait, les Tatars du nord de l'Europe vont même s'affronter avec les autres Tatars, qui eux sont les Tatars de Crimée ou les Tatars de la Volga, etc., qui vont en fait rejoindre l'Empire ottoman pour beaucoup par la suite. Et les Tatars du nord de l'Europe, d'abord font preuve d'une loyauté sans faille envers leur terre d'accueil, parce qu'ils vont s'y établir. Vous avez mentionné le roi de Pologne, Jean III Sobieski, effectivement, qui va leur donner des terres.
Et grand-duc de Lituanie.
Et grand-duc de Lituanie, effectivement, parce qu'à l'époque, c'est commun. Mais il va leur donner des terres parce que les Tatars sont des cavaliers hors pair, et donc ils vont combattre même les Tatars de Crimée, ils vont combattre... cette partie du nord de l'Europe était un champ de bataille perpétuel, et il est convoité par les Suédois, les Teutons, la Russie impériale, ensuite Napoléon qui va passer par là aussi et qui devait d'ailleurs avoir un bataillon tatar avec lui pour combattre la Russie. Et donc ils vont, pour prix de cette loyauté, ils vont recevoir des terres, ce qui va créer une sorte de petite noblesse tatar. Et donc ils auront été d'une loyauté sans faille encore envers leur terre d'accueil. Et c'est probablement cet isolement aussi qui a contribué à ce qu'ils perdent beaucoup. Leur chant, leur costume, comme on le disait au début de l'émission, et qui vont devoir en fait revenir vers les Tatars qu'ils ont autrefois combattus de Crimée ou de Bachkirie ou de Tatarstan pour récupérer ces coutumes oubliées.
Bien. Marie Favreau, on a parlé un peu de cette période, notamment le XIIIe siècle, mais quand même, les Mamelouks vont mettre fin un peu à l'expansion vers l'ouest des Mongols. Et pour parler, puisque le temps s'écoule, de la fameuse bataille de Aïn Jalout, la source de Goliath, qui a eu lieu de mémoire le 3 septembre 1260. Donc on est à 2 ans et demi depuis la prise de Bagdad. Elle est décisive, cette bataille, entre Baibars et un général que Hulagu a laissé, puisqu'il devait revenir après la mort de son frère pour participer au Kurultai. En rappelant que pour nos amis auditeurs, c'est une forme d'assemblée politique et militaire de notables mongols pour désigner le grand khan.
Oui, voilà, le Kurultai, c'est vraiment l'assemblée politique. Alors, ils prennent des décisions effectivement clés hein, pour toute la communauté mongole. C'est une assemblée qui réunit les élites nomades mongoles, hommes et femmes, et qui parle de questions notamment militaires, de succession, mais ça peut parler des impôts, on peut parler de la paix, enfin, plusieurs sujets sont évoqués, mais c'est l'assemblée annuelle, en général. Voilà, là, il se passe qu'il y a une succession difficile, le souverain est mort, et dans le cas de Mongol, il n'y a pas de primogéniture, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un souverain est mort que son fils aîné immédiatement prend le pouvoir, c'est une forme d'élection. Il faut que tout le monde, et cette élection, pour qu'elle ait lieu et qu'elle soit valide, il faut que tous les représentants légaux, en fait, de la famille, hommes et femmes, se réunissent donc vers la Mongolie. C'est ce qui donc explique le retrait d'Hulegu et d'une partie de l'armée mongole de ces régions qui, alors, donc, une fois qu'ils avaient dépassé en fait Bagdad, ils avaient été jusqu'au Danube, et à l'époque, ils étaient pratiquement à Vienne, comme on dit. Voilà, donc une partie de l'armée repart pour régler ce problème de succession extrêmement important, mais en même temps, c'est certain que dans les régions qui étaient dirigées par Hulegu, on laisse des bataillons, parce que l'idée des Mongols, c'est pas de faire du raid et du pillage, c'est d'agrandir leur empire. Ils veulent intégrer donc le monde abbasside et avant cela et le monde ayoubide, on l'avait compris, mais ils ont aussi ce rêve d'aller jusqu'à l'Égypte. Donc ils maintiennent des troupes dans une région qui correspond aujourd'hui donc à Israël notamment, mais aussi au Liban, en Syrie, dans toutes ces régions-là. Ces troupes, elles sont en infériorité numérique. Baibars, qui est un général, on va dire mamelouk, à la fois ambitieux, extrêmement intelligent, sait l'infériorité numérique mongole et comprend que c'est le moment de mettre un coup d'arrêt à cette avancée mongole qui compte aller jusqu'en Égypte.
Conduite par le général Ketbouga, un chrétien historien.
Ketbouga, absolument. Tout à fait, et qui est positionné en attendant le retour d'Hulegu, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est que Baibars, à ce moment-là, quand il monte l'expédition pour refouler, en fait, les Mongols qui sont dans la zone de Ain Jalut, en fait, il va faire accord avec les croisés. Parce qu'on a toujours cette vision, en fait, très dichotomique, d'un côté, les croisades, les croisés latins, et puis de l'autre, voilà, les positionnements musulmans dans la région. Là, c'est pas du tout ça qui se passe, il y a des négociations, et les croisés laissent passer les armées de Mamelouk, pour aller, parce qu'ils considèrent que c'est négociable, que c'est, pourquoi pas, on arrête les Mongols, parce que les croisés sont pas très rassurés non plus. Enfin, en tout cas, les royaumes, on va dire, latins, dans la région, ne sont pas du tout rassurés par l'arrivée des Mongols, ne comprennent pas très bien qui sont ces nouveaux, comment dire, acteurs militaires et politiques dans la région, qui ont pas l'air chrétiens, pas l'air musulmans, on sait pas très bien ce qu'ils sont. Donc, ils font cette sorte d'alliance, entre guillemets, on va dire, voilà. Et Baibars passe, et effectivement, il a un succès militaire indéniable à Ain Jalut contre les Mongols. Et ça va avoir des conséquences fortes, puisque les Mongols, du coup, n'arriveront jamais vraiment à avoir accès à la Méditerranée. C'est-à-dire qu'ils seront toujours arrêtés sur une frontière qui correspond à une zone, à la Syrie actuelle, on va dire, sur laquelle ils vont avancer, reculer, mais n'iront plus jamais jusqu'à la Méditerranée comme ils l'avaient espéré avant. Et par contre, ce qui est tout à fait spécial, c'est que Baibars, donc les Mamelouks, sont des jeunes guerriers, on va dire turcs, hein, de manière générale, turcophones de langage, qui sont au départ de jeunes esclaves, recrutés dans les armées ayoubides puis abbassides pour être les cavaliers d'élite de l'armée. Et ce sont des cavaliers d'élite qui ont des pratiques liées au monde de la steppe, très proches des pratiques militaires mongoles. Et il y aura même, on le sait par la suite, des Mongols dans les armées mamelouks. Donc en fait, les mamelouks sont à la fois, ils ont un rapport de miroir avec les Mongols, ils sont à la fois leurs ennemis et ceux qui les ont arrêtés, et en même temps vont devenir assez vite leurs alliés, parce qu'ils vont avoir besoin de jeunes mamelouks, de plus de cavaliers d'élite dans leurs propres armées, donc ils vont aussi faire alliance, donc, non pas avec Oulégou, avec lequel c'est très compliqué, mais avec Berke, dont on a parlé, ces fameux Mongols du Nord, musulmans du Nord, qui vont devenir après les Tatars, hein, en fait. Et ils vont faire alliance avec eux, une armée mamelouk renforcée annuellement par de jeunes hommes qui bon, sont des esclaves, mais qui sont affranchis hein, au moment où ils prennent leur vrai statut dans l'armée mamelouk. Donc, je trouve très intéressant et très paradoxal, et en même temps très, on peut l'expliquer historiquement, ce rapport entre empire mongol et monde mamelouk musulman médiéval, où il y a des aspects de destruction, des aspects d'inquiétude, de fin du monde musulman, et en même temps une renaissance du monde musulman à travers les mamelouks et leur alliance avec le nord de l'empire mongol, donc le fameux Berke. Le dernier point que je voulais aborder très très rapidement, c'est expliquer à nos auditeurs pourquoi on parle de Tatars et de Mongols. Et je me dis peut-être, comme mes étudiants, ils se disent, oui, mais quel est le, pourquoi est-ce que on les appelle Tatars aujourd'hui? Et c'est quoi le lien avec ces Mongols dont on parle au XIIIe siècle? En fait, au sein des armées mongoles, il y avait des populations, on va dire, qui venaient aussi de la région de Mongolie actuelle, qu'on appelait Tatars. En fait, tout ça, c'est des noms de lignage, ou des noms de tribus, ou des noms de hordes, si on préfère employer ces termes-là. Tatar était un de ces noms-là. Et Tatar, c'était un nom qui était connu en Occident déjà. Et c'est vrai que Tatar est un nom qui apparaît au XIIIe siècle dans toutes nos sources pour parler des Mongols. Et du coup, Tatar et Mongol se sont devenus un seul et même peuple au XIIIe siècle, ce qui peut surprendre quand voilà, on étudie cette période de l'histoire pour la première fois.
Merci Marie Favreau. Ces Tatars, justement, de maintenant, bien qu'ils soient très peu nombreux, ça ne leur pose aucun problème, ils sont à l'aise au sein d'une communauté catholique nombreuse, là en Podlachie.
Alors les Tatars de Pologne effectivement vivent dans un pays un des plus catholiques au monde, donc à une écrasante majorité, mais c'est pas un souci. En fait, ils vivent très bien. J'ai rencontré des familles, c'est assez amusant. Les enfants portent deux prénoms, par exemple un prénom musulman et un prénom catholique. Pour une fille, ça pourra donner Lucia Sadikan, par exemple. Et même le guide de la mosquée de Crochignani a des enfants, et sa fille, c'est un mariage mixte avec une polonaise catholique, oui. Et donc sa fille est catholique et son fils est musulman. Et donc ça, et il me dit, j'ai dit c'est assez particulier quand même. Il me dit mais nous on est habitués à cette mixité depuis toujours.
Bien, merci infiniment. Merci à vous deux. Merci Marie Favreau. Merci Isabelle Mondreau. Chers amis auditeurs, c'était question d'islam et on a parlé des Tatars, des Mongols. Vous nous avez expliqué comment c'est devenu presque interchangeable. Vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Bourchon. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Delphine Baudet et la réalisation est assumée par Daphné Leblond.